Comment prouver qu'un document ne contenant que 31 lettres et constitué de 3 phrases uniquement est un faux document? Ça paraît impossible, pourtant vous allez voir qu'il n'en faut pas beaucoup pour que les faussaires se prennent les pieds dans le tapis. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode consacré à l'analyse de la fausse lettre du Titanic. Après avoir vu l'introduction la semaine dernière, on va rentrer dans le vif du sujet et explorer le travail effectué sur les graphies des lettres, c'est-à-dire le type de lettres utilisées. Le but ici, c'est de montrer que même sans document comparatif, une analyse de texte est possible en explorant les contextes historiques. Ici, il s'agit du contexte de l'école publique en France en 1912. Si vous n'avez pas encore téléchargé votre exemplaire de l'analyse complète et gratuite, c'est sur le site expertisedocument.com que vous la trouverez. Je vous recommande vraiment d'aller télécharger le document pour avoir accès au protocole complet, car ici on va directement aller au résultat. Mais avant d'aller plus loin, il faut tout d'abord préciser un fait essentiel. Au début du XXe siècle, l'enseignement de l'écriture au sein de l'école française est basé sur l'écriture cursive exclusive. Ce petit rappel historique est très très important, parce que le type de graphie cursive possède des caractéristiques qui permettent de la différencier des autres. L'écriture cursive, elle est composée d'une succession de traits et de boucles. Les lettres présentent une petite queue finale qui permet de les lier entre elles au sein d'un même mot. L'écriture cursive, elle a donc une esthétique très particulière et très reconnaissable. Et l'écriture cursive, c'était la norme dans l'école française du début du XXe siècle. Ces éléments étant posés, l'étude s'est attachée à montrer que si le document attribué à Mathilde Lefèvre a bien été composé par elle en 1912, alors on doit retrouver les éléments qui caractérisent la maîtrise de ce type d'écriture, c'est-à-dire de l'écriture cursive exclusive selon les normes et les standards scolaires de l'époque. Je vais vous présenter maintenant les conclusions de l'analyse des graphies. Selon les résultats de l'analyse, nous pouvons conclure que le texte présente 3 types de graphies: cursive, script et personnel. Il n'y a que 4 lettres qui sont exclusivement écrites en cursive. Ce sont les lettres L, M, S et U. Les autres lettres du texte présente des variations de graphie. On observe la présence de types de graphie souvent combinés, cursive et personnel pour les lettres A, D et R, cursive et script pour les lettres E, I et T, personnel et script pour la lettre B. Si la majorité des lettres du document attribué à Mathilde Lefèvre sont écrites en cursive, on note la présence d'incursions de graphies script ou personnel tout au long du texte. Et ça représente quand même 64 lettres minuscules ou majuscules écrites en script, personnel ou indéchiffrable, soit un total de 40% de lettres constituant le texte. Il apparaît donc clairement que le texte n'est pas rédigé en écriture cursive exclusive. Les majuscules présentent cette particularité d'être toutes écrites avec une graphie personnelle à l'auteur. Elles ne correspondent pas au standard des majuscules cursives ou script. L'étude des liaisons entre les lettres d'un même mot montre qu'elles sont difficiles à établir tout au long du texte. Que ce soit entre une lettre et celle qui la précède, ou entre une lettre et celle qui la suit. Il s'ensuit que les mots qui constituent le texte possèdent énormément d'espace interlettres. L'observation de la capacité à établir des liaisons entre les lettres selon leur type de graphie a été particulièrement informative. Elle montre que la capacité de l'auteur à établir des liaisons est instable. Si l'auteur semble avoir plus de facilité à créer des liaisons entre les lettres cursives, ce qui est logique puisque ce type de graphie est fait pour permettre la création de liaisons, on constate que parfois des liaisons possibles ne sont pas effectuées. Nous observons que les lettres ne font qu'augmenter en taille et en amplitude tout au long du texte. On observe des variations de contrôle attentionnel et moteur dès la première ligne du texte. Les deux premiers mots, « je jette », présentent déjà les caractéristiques d'un manque de contrôle de l'écriture cursive, puisqu'on note une absence de liaison entre les lettres et un mélange d'utilisation de lettres script et cursive. Le troisième mot, « 7 », est un parfait exemple de contrôle suffisant pour écrire toutes les lettres en cursive et effectuer les liaisons adéquates entre elles. Le contrôle attentionnel et moteur pour écrire ce court mot semble difficile à maintenir longtemps. Très rapidement, l'auteur relâche ce contrôle pour reprendre sa tendance naturelle d'écriture. Nous pouvons dès lors poser l'hypothèse que les variations de taille et d'amplitude des lettres des mots du corps du texte sont l'expression d'une volonté de l'auteur de maîtriser son geste graphique naturel pour le rendre plus conforme à l'idée qu'il se fait d'une écriture typique de 1912. Les chiffres présentent eux aussi des tentatives de coller à une certaine idée de l'esthétique de l'écriture de 1912. L'auteur recourt à des fioritures d'ordre esthétique qui relèvent de stéréotypes historiques, c'est-à-dire de ce que l'auteur croit être une écriture typique de l'époque. Cependant, comme le rappelle l'annexe 4, l'écriture typique d'une enfant de presque 13 ans venant tout juste de quitter le système scolaire français en 1912, c'est l'écriture cursive attachée. À l'époque, les personnalisations de l'écriture ne sont pas admises en milieu scolaire, et les personnalisations de l'écriture apparaissent beaucoup plus tardivement, elles s'ancrent à l'âge adulte selon le niveau de pratique. Il est donc très improbable d'avoir un texte avec autant de fioritures écrit par une enfant encore si proche du système scolaire en 1912. On remarque que le texte est écrit sur une feuille unie non quadrillée. Les lignes d'écriture sont toutes droites, on ne note ni tremblement de la main, ni déviation des tracés. L'auteur a fixé un cadre spatial dans lequel le texte est écrit, laissant une marge importante sur la droite, un retour à la ligne étant fait alors qu'un espace d'écriture est encore possible. On note la présence de marqueurs spatiaux de début et de fin qui délimitent un espace d'écriture du corps du texte. Les majuscules et certaines minuscules sont alignées les unes en dessous des autres pour constituer le marqueur spatial de début du cadre. Les boucles finales sur le dernier mot d'une ligne constituent les marqueurs spatiaux de fin de cadre. Ces observations permettent de mettre en évidence les qualités de contrôle attentionnel, moteur, visuo-spatial et visuo-moteur déployées par l'auteur. On note plusieurs bizarreries dans la graphie de certaines lettres majuscules ou minuscules. Il apparaît ici intéressant de proposer une hypothèse interprétative face aux mots sur lesquels ces anomalies sont observées. On remarque ainsi que le mot « je », le mot « liévin » et les deux occurrences Lefèvre sont tous des mots liés à l'identité de l'auteur supposé du document, c'est-à-dire Mathilde Lefèvre. Ces mots sont des marqueurs d'identité à forte résonance psychologique, et ils présentent tous des anomalies. Il n'est pas exclu de penser que ces anomalies constatées sur des mots très chargés identitairement constituent des indices de tentative de la part de l'auteur pour prendre de la distance avec ce qui relève du vol d'identité. Se faire passer pour un autre est une activité très coûteuse en ressources cognitives et émotionnelles. La dissonance cognitive éprouvée par l'auteur peut se traduire au niveau moteur, les fuites comportementales se multipliant et finissant par trahir l'imposture. L'analyse des chiffres a montré une nouvelle tendance à la recherche d'une esthétique d'écriture par un jambage démesuré de certains chiffres. Outre ce qui a déjà été dit plus haut sur la réalité historique de ce genre de fioriture à l'époque chez une enfant, on remarque que le chiffre 9 est écrit avec une graphie anglo-saxonne. Mathilde Lefebvre, ayant été une enfant française, élève à l'école française au moins jusqu'au 10 avril 1912, date de départ du Titanic, on imagine mal comment une graphie anglo-saxonne pourrait se retrouver dans sa correspondance. On sait par contre qu'aujourd'hui cette graphie est tout à fait commune dans de nombreuses écritures d'adultes. Alors toutes ces observations concernant l'étude des lettres du document sont autant d'indices que le texte attribué à Mathilde Lefebvre ne correspond pas aux standards d'écriture en 1912. Ils ne correspondent pas non plus aux standards et aux normes d'apprentissage et de pratique de l'écriture au sein de l'école française à la même époque. Au vu de l'âge de Mathilde Lefebvre le 13 avril 1912 et de sa proximité avec le système scolaire, il est peu probable de retrouver à cette date et à l'âge de cette jeune fille une écriture si éloignée des normes scolaires et sociales de son époque. Âgée de presque 13 ans le 13 avril 1912, il semble impossible que Mathilde Lefebvre ne puisse pas écrire de façon stable en cursive et établir les liaisons que requiert ce type de graphie alors qu'il s'agit de la norme d'écriture de l'époque, tant au niveau social que scolaire. De plus, les combinaisons de graphie cursive, script et personnel sont typiques d'une écriture moderne. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir de jeunes adolescents mélanger ces trois types de graphie et cette tendance est encore plus marquée chez les adultes. L'auteur de la lettre tente de maintenir une écriture en cursive, mais il ne parvient à écrire qu'un seul mot en cursive attaché. C'est le mot « 7 » à la ligne 2. C'est le seul mot qui est écrit en cursive attaché. De multiples erreurs parcourent le texte, des erreurs qui sont autant d'indices sur l'origine de cette écriture qui appartient bien plus vraisemblablement à un adulte qui vit au XXIe siècle. Si vous souhaitez continuer la discussion sur le travail d'expertise de documents et la fausse lettre du Titanic, je vous retrouve tout de suite sur la newsletter du site expertisedocuments.com. C'est sur cette newsletter que je vous donne encore plus d'informations, de conseils lecture, et surtout, c'est là que vous pouvez me poser vos questions et proposer vos idées d'épisodes. Et tant que vous êtes sur le site, n'oubliez pas d'aller télécharger l'analyse complète consacrée à la fausse lettre du Titanic. Cette analyse est totalement gratuite et ça vous permettra d'avoir accès à l'ensemble du protocole d'expertise. À tout de suite sur expertisedocuments.com. Dans le prochain épisode, on va continuer et terminer l'analyse de la lettre. On verra ensemble l'analyse des champs lexicaux, c'est-à-dire l'étude des mots utilisés dans le document. Je vous retrouve donc jeudi de la semaine prochaine pour poursuivre notre exploration dans le monde de la manipulation écrite et de celles et ceux qui la traquent. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.